Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1 dans ce 5h-6h30. Nous sommes le vendredi 27 août et le vendredi, Omblin.
Ah bah c'est fête, c'est la dernière droite avant le week-end.
Ouais, on arrive au bout de cette première semaine de reprise ou au bout des vacances pour certains. Ce n'est pas forcément le moment le plus joyeux de l'année, mais on va y remédier ensemble.
Et parce qu'il y a une constante hein, quand même dans cette matinale, vous vous en êtes rendu compte cette semaine, la bonne humeur, même si bah, ce matin, il faut bien le dire, l'actualité est dramatique.
Oui, avec ces attaques hier à l'aéroport de Kaboul revendiquées par l'État islamique. Bilan très lourd, on en parle évidemment dans le journal dans un instant. Sur une note plus légère maintenant, Omblin, quel est le thème de votre interview dans 40 minutes?
Couvrez ce sein que je ne saurais voir, et oui, on n'enlève plus le haut pour bronzer sur les plages. Vous l'avez peut-être constaté cet été pendant vos vacances. Le topless est en perte de vitesse, la faute aux réseaux sociaux qu'ils cultivent l'image du corps parfait et la peur pour les femmes d'être scrutées, voire harcelé à 6h10, Julien. Il sera question de chiffres dans votre interview.
Oui, mais ne vous inquiétez pas, ce sera très concret. Figurez-vous que les banques n'ont jamais autant accordé de prêts immobiliers depuis 4 ans. C'est comme s'il n'y avait pas eu de crise économique. Taux historiquement bas, dossier validé comme une lettre à la poste. C'est l'euphorie, mais jusqu'à quand? On verra cela avec une experte du courtage immobilier.
Autre rendez-vous, Julien, les initiatives en France. Dans une vingtaine de minutes, celles et ceux qui font bouger les choses.
Avec ce matin, une entreprise toulousaine qui s'engage dans la lutte contre les incendies qui ont une nouvelle fois, vous vous en souvenez, émaillé l'été. Son concept, transformer des avions de ligne promis à la casse en bombardiers d'eau. Vous l'entendrez, c'est passionnant, tout comme votre partition, Omblin, à 6h20. On écoute quoi ce matin?
Sur la scène Britpop, au beau milieu de la guéguerre qui oppose Blur et Oasis en 1995, surgit un groupe qui mise tout sur l'humour et la détente. La partition de Supergrass à 6h20.
Oui, absolument. Voilà pour le programme de ce vendredi matin. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Et c'est la météo à présent avec Anissa Haddadi. Bonjour Anissa.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Et on finit la semaine dans une ambiance plutôt fraîche.
Oui, et j'ai la coupable. Je la connais, je l'ai trouvée.
Nommée.
C'est la bise. Souffle encore sur le nord-est. Elle va souffler encore cet après-midi. Du coup, les températures sont en baisse. Couvrez-vous. Ce matin à Montluçon, on n'aura que 6 degrés, 8 degrés à Nevers et Auxerre, 10 pour Belfort. Il y a Marine qui nous écrit et qui nous signale sur Twitter qu'elle a seulement 12,3 degrés à Charleville-Mézières, 12 à Rouen.
Pauvre Marine.
14 à Paris. Il fait un petit peu plus doux dans le sud, forcément, comme d'habitude, avec 16 degrés à Biarritz, 19 à Nîmes et 20 degrés pour Nice. Alors cet après-midi, c'est le même schéma. On aura seulement 19 à 23 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 32 degrés dans le sud et notamment à Perpignan. Dans le ciel, allez, c'est plutôt sec, ensoleillé, avec pas mal de passages nuageux et peut-être quelques gouttes sur la région parisienne.
Ok, bon, c'est noté. Merci beaucoup.
Ce soir,
Anissa Haddadi, on vous retrouve dans une demi-heure. Mais avant, c'est le premier journal de cette matinale. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Un double attentat et une fusillade dans la foule. Scène de chaos au milieu du carnage aux abords de l'aéroport de Kaboul. Des dizaines de morts, parmi lesquels 13 soldats américains. Joe Biden assure que les États-Unis pourchasseront les auteurs. Attentat revendiqué par l'État islamique. Emmanuel Macron confirme que les opérations d'évacuation d'Afghans menacées par les talibans seront menées à leur terme, ainsi que l'aide humanitaire. Laurent Wauquiez passe son tour à la primaire de la droite pour la présidentielle. Deux nouveaux candidats déclarés hier, Éric Ciotti et Michel Barnier. Et puis, augmenter les salaires pour attirer les candidats dans les entreprises à la recherche de main-d'œuvre, c'est la suggestion de Bruno Le Maire et elle n'est pas si simple à mettre en œuvre. Explication dans ce journal. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. L'État islamique a donc revendiqué le double attentat de Kaboul qui a semé la terreur dans le secteur de l'aéroport hier. Au moins 20 morts, mais certaines sources évoquent un bilan qui pourrait être de 60 morts, chiffre encore non confirmé, et des dizaines de blessés secourus au milieu du carnage et dans une ambiance de chaos toute la journée d'hier. Parmi les victimes, il y a 13 soldats américains, puisque la zone de l'attaque était sous responsabilité des États-Unis. Cette nuit, Joe Biden a promis de pourchasser et de faire payer les auteurs de ces attaques, assurant que cela n'empêchera pas les États-Unis de poursuivre leur mission. À Washington, on retrouve notre correspondant Alexis Guilleux.
Oui, c'était la grande crainte des Occidentaux. Il y a 24 heures, Britanniques et Américains avaient demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement cette zone aux abords de l'aéroport à cause de menaces terroristes imminentes. Les services de renseignement n'ont donc pas pu empêcher ces images de chaos à Kaboul, des corps étendus sur le sol, des enfants portés à bout de bras, des blessés en sang, parfois transportés dans des brouettes. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique et condamné par les talibans, qui ont tout de même précisé que l'attaque avait eu lieu dans une zone où les Américains assuraient la sécurité. Alors après une courte pause, les évacuations ont finalement repris hier à Kaboul, car l'armée américaine contrôle toujours l'aéroport et des milliers de personnes attendent encore à l'intérieur. Évacuer autant de personnes que possible, c'est la priorité de l'OTAN. Les terroristes ne nous intimideront pas. Nous continuerons notre mission, a lancé de son côté Joe Biden, le président américain qui a promis des représailles contre le I, tout en confirmant le départ définitif des troupes américaines le 31 août.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
À Paris, Emmanuel Macron, tout en condamnant ces attaques, assure que la France, elle aussi, mènera à terme ses opérations d'évacuation d'Afghans menacés par le nouveau régime taliban.
Poursuite également de l'action humanitaire, il faut dire que l'on estime à plus de 18 millions le nombre de personnes en situation d'urgence humanitaire dans le pays. Olivier Routeau dirige les opérations de l'ONG Première Urgence en Afghanistan.
Il y a déjà eu des discussions avec les talibans pour la continuité de nos opérations. Le discours, il est plutôt de confirmer la volonté des talibans de laisser les acteurs humanitaires opérer et même de les inviter à reprendre leurs activités. Par contre, évidemment, nous, notre enjeu, c'est de discuter avec eux sur les modalités, d'avoir une totale indépendance sur les lieux où on intervient, sur l'identification des bénéficiaires, sur la possibilité pour nos personnels, notamment féminins, de pouvoir travailler de manière normale, tout un tas de choses avec lesquelles on discute avec eux et sur lesquelles on a l'habitude de discuter. Enfin, comment on est en mesure d'être opérationnel, c'est d'avoir les moyens de le faire. Le système bancaire afghan est paralysé depuis plusieurs jours, sans perspective claire sur un retour à la normale. Et ces moyens, ils vont être nécessaires pour pouvoir payer nos collaborateurs, acheter du carburant, fonctionner tout simplement. Et puis, deuxième enjeu, c'est de pouvoir faire rentrer dans le pays du matériel humanitaire, à commencer par des médicaments. Et ça, c'est un vrai souci immédiat et concret qui va conditionner la capacité des acteurs à organiser cette réponse.
Olivier Routeau de l'ONG Première Urgence, des propos recueillis par Caroline Baudry.
Vous écoutez Europe 1, il est 5h04.
La quatrième vague de l'épidémie n'est pas encore derrière nous. Olivier Véran prévoit que le seuil des 50 millions de primo-vaccinés en France sera atteint dès la première semaine du mois de septembre.
Le ministre de la Santé qui a cette formule, la quatrième vague est une vague de non-vaccinés. Olivier Véran qui n'a par ailleurs pas exclu hier que le pass sanitaire soit prolongé au-delà de la date du 15 novembre si le Covid, dit-il, ne disparaît pas de nos vies.
La politique, on n'est pas loin de l'embouteillage à droite en vue de la présidentielle.
Oui, effectivement, si Laurent Wauquiez renonce à une éventuelle primaire, refusant d'ajouter de la division à la division, deux nouveaux candidats se sont déclarés hier. Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, et Michel Barnier, l'ancien négociateur du Brexit. Avec tous ces prétendants sur la ligne de départ, le moins que l'on puisse dire, Louis Dragnel, c'est que les militants LR auront l'embarras du choix. Hein.
Oui, maintenant c'est bon, les électeurs de droite peuvent y voir plus clair. Sur la ligne de départ, pour savoir qui sera le candidat de la droite à la présidentielle, quatre candidats donc, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Éric Ciotti et Philippe Juvin. Et puis, il faut ajouter Xavier Bertrand, qui lui ne participera pas à la primaire. Il l'a toujours dit, il sera candidat directement à la présidentielle. Alors, dans les prochains jours, chaque candidat va vouloir montrer ses muscles, afficher ses soutiens. Ça commencera ce week-end à la Baule, où Michel Barnier et Philippe Juvin participeront aux universités de rentrée des Républicains. Et puis, il faudra regarder du côté des Alpes-Maritimes, où Éric Ciotti rassemble ses soutiens dans le département qui compte le plus d'adhérents LR. Sans oublier Valérie Pécresse, qui réunira ce même week-end tous ses amis politiques, ses soutiens et ses proches à Brive, en Corrèze. Alors, pour la suite, eh bien, ce n'est pas encore très clair. Le parti a décidé de lancer le 30 août un sondage auprès de 15 000 sympathisants pour essayer d'identifier le candidat qui sort du lot. Mais Michel Barnier conteste depuis plusieurs semaines cette méthode. L'ancien négociateur du Brexit le martèle. Il veut une primaire, le vote des militants. Vous le voyez donc, on avance à droite, mais tout n'est pas encore réglé.
Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1.
C'est l'un des débats qui monte à l'occasion de cette rentrée, la question de l'augmentation des salaires.
La question qui se pose sur fond de reprise économique après la crise sanitaire, même si certains secteurs évidemment restent fragiles. Bruno Le Maire a appelé les entreprises à augmenter les salaires pour attirer les candidats dans les secteurs qui ont du mal à recruter, les fameux secteurs sous tension, hein, comme l'on dit. Mais pour les patrons, ça n'est pas si simple, Carole Ferry.
Ça me fait rire, hein, je vous cache pas.
Voilà ce que pense Anthony Kremer-Capocci de la solution proposée par Bruno Le Maire. Sa société de food truck italien est en plein essor. Il voudrait recruter. Il est même convaincu que de meilleurs salaires l'aideraient. Mais à l'heure des comptes, il fait chaque fois marche arrière.
Nous, on aimerait, on demande que ça, pouvoir augmenter les salaires. Si derrière, en termes de charges, on est peut-être un petit peu moins chargé, je préfère donner un salaire plus élevé à une personne qui se donne corps et âme pour ma société et en donner peut-être un petit peu moins à l'État, par exemple.
Et cette pénurie de main-d'œuvre s'est amplifiée avec le Covid. Le thermalisme, par exemple, n'avait aucun problème de recrutement avant la crise. Aujourd'hui, il y a 15 à 20% d'emplois non pourvus. Mais le délégué général du Conseil national des établissements thermaux, Claude Eugène Bouvier, ne voit pas non plus comment relever le curseur des salaires.
Les établissements thermaux ont déjà subi de lourdes pertes, une baisse très sensible de la fréquentation, de l'ordre de 60% en 2020, et nous n'avons pas réellement de marge de manœuvre pour pouvoir augmenter significativement le niveau de rémunération.
Mais si la pénurie persiste, les entreprises n'auront pas d'autre choix que de revaloriser la rémunération, reconnaît le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Il prévient toutefois qu'augmenter les salaires, ça veut dire augmenter les prix. Il invite donc chacun à s'interroger sur l'économie du low cost.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Dans cette ambiance rentrée, il y en a qui profitent malgré tout de leurs ultimes jours de vacances.
Et qui se disent, comme tout le monde évidemment, que ces vacances sont passées trop vite. Stéphane Place en a rencontré quelques-uns sous le soleil et dans la douceur bordelaise.
Il nous reste 4 jours.
Reprise du boulot dès la semaine prochaine pour ce couple de touristes venus du Gard. Frédéric et Fabienne comptent bien profiter au maximum de la fin de leur séjour dans le sud-ouest.
Là, on est sur Bordeaux. Après, on va faire Montauban un jour. Après, on va faire Carcassonne.
La Cité des Vins, Bassin des Lumières et puis un tour dans Bordeaux.
Étudiante Emma, 21 ans, voit aussi la rentrée approcher.
Ça a été des très bonnes vacances. Avec le pass sanitaire, ça change quand même pas mal de choses. Tous les deux, on a fait notre premier festival depuis 2 ans. Au début, c'était vraiment bizarre de se réhabituer à autant de monde. Un très bon souvenir. On a presque l'impression de revenir comme avant.
Reprendre le chemin de la maison avant celui de l'école, Kamel et ses enfants s'apprêtent à quitter Bordeaux pour repartir à Marseille.
On est resté 15 jours, donc ça va être compliqué de reprendre le boulot. Mais bon, il y a l'école. À la reprise, il va falloir les coucher à une certaine heure et les relever à une certaine heure. Ça commence à partir de lundi.
Une perspective qui n'enchante guère Mathéa, 14 ans.
Ça nous perturbe et puis les vacances, c'est vrai que depuis le confinement, on a été finalement tout en vacances pour nous, le fait d'être en distanciel et puis on n'a pas hâte de rentrer quoi.
Alors sous un soleil de plomb, ici en Gironde, les touristes savourent chaque moment de ces derniers jours de vacances. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
On termine avec le foot et le Real Madrid qui revient à la charge pour Mbappé et fait monter les enchères.
180 millions d'euros pour attirer le champion du monde chez les Meringues, selon nos confrères de l'équipe. Le Paris Saint-Germain, paraît-il, serait prêt à lâcher, on verra bien. Le PSG qui hérite d'un tirage au sort 5 étoiles pour la Ligue des Champions, Manchester City, Leipzig et le club de Bruges. Lille, de son côté, affrontera Séville, Salzbourg et Wolfsburg. Premier match, notez bien, 14 et 15 septembre prochain.
Merci beaucoup Lionel Gougelot. Prochain journal complet à 5h30.
Il est 5h10 sur Europe 1, c'est les courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses ce soir à Cabourg et mon pari gagnant sera le 813 Idola. Après des débuts ratés le 14 juillet au Sable d'Olonne où elle s'est montrée fautive peu après le départ, cette pouliche taillée pour réussir dans la discipline du trot monté a su dès sa sortie suivante se réhabiliter en s'imposant sans aucune émotion sur le même parcours que celui qu'elle empruntera ce soir à Cabourg. Perfectible et sur la montante depuis le matin à l'entraînement, elle devrait sans aucune difficulté doubler la mise. Notez bien, pour ce soir à Cabourg, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 13, Idola.
Le numéro 13, c'est noté. Merci Thierry Léger. On vous retrouve dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h12 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez à peine de nous rejoindre et pile au bon moment, on peut le dire hein, pour le pressing.
Vous pouvez le dire, c'est votre rendez-vous où l'on décortique la presse dans la bonne humeur. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous allez dans un instant nous emmener à Venise, mais avant, voici les unes ce matin de vos principaux quotidiens. Laurent Wauquiez renonce, la décision qui rebat les cartes, titre aujourd'hui en France, qui analyse les potentielles conséquences du refus du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de se présenter à la présidentielle. Résultat, selon le quotidien, on s'oriente à droite vers un duel entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Dette, déficit, vers la fin de l'argent facile, c'est la question à la une ce matin du Figaro. Avec le retour de la croissance et de l'inflation, les banques centrales pourraient être amenées à durcir leur politique monétaire. On termine avec l'équipe et cette une qui fera frémir les supporters du PSG. Mbappé aux portes du Real, titre le quotidien sportif. On en parlait un instant dans le journal, le Real Madrid a fait une nouvelle offre de 180 millions d'euros, ce qui et le club parisien a accepté d'ouvrir des discussions avec les Merengues, ce qui laisse entrevoir un départ de plus en plus probable de l'attaquant français. Voilà pour les unes, je me tourne vers vous Omblin. On commence avec vous.
Oui, c'est peut-être l'une de vos bonnes résolutions de la rentrée, retourner à la salle de sport. Alors oui, retournez parce que ça suffit de payer un abonnement tous les mois et de trouver une bonne excuse, hein, selon vous, de sécher hein, pour les cours de sport.
Bah,
il faut y retourner.
On a une petite matinale à faire tourner quand même. Hein.
Alors vous êtes prêts à transpirer, être hors d'haleine, sur les genoux, voire au bord de l'évanouissement. Le CrossFit, messieurs, est-ce que vous connaissez ?
Oui.
C'est dur. Hein.
C'est, je connais de nom, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils font ces gens.
Ah, attendez. C'est la grande tendance dans les salles de sport. C'est Libération qui fait un focus sur cette méthode de préparation physique venue de Californie. Alors, vous êtes un jeune cadre dynamique urbain, pressé. Voilà. Oui. Le CrossFit est fait pour vous avec des séances de 30 à 45 minutes. La particularité de la méthode, c'est d'enchaîner des mouvements simples, sauter, tirer, pousser, enchaîner. Jusqu'à devenir dingue. Alors évidemment, la vitesse d'exécution ou le nombre de répétitions change selon le niveau. Autre élément indispensable, c'est le coach. Alors je ne sais pas si vous criez dessus, hein, mais en tout cas, il vous motive et il vous pousse dans vos derniers retranchements. Alors pourquoi le CrossFit a autant de succès, vous allez me demander.
Eh bien, pourquoi a-t-il autant de succès ?
Parce que nous dit Libé, cette méthode d'entraînement coïncide avec les attentes du marché du travail d'aujourd'hui. Performance, dépassement de soi, efficacité et tout ça en un minimum de temps. Au travail, on résiste au stress. Pendant la séance de CrossFit, on essaye de ne pas aller vomir à la fin dans les vestiaires.
Charmant.
Sympa. Un moment délicieux. Donc, pour la modique somme de 100 euros par mois. Oui. Mais à ce prix-là, vous avez accès à la communauté. Vous imaginez bien que l'esprit de groupe, c'est important pour ne pas lâcher l'esprit de groupe et la compète. Hein. Vous trouvez un petit tableau à la sortie de la salle sur lequel est noté les performances de chaque pratiquant et le classement. Bon, eh ben, il est temps de s'y mettre. Le CrossFit Trainers Musculaire, c'est dans Libération.
J'ai pas du tout envie d'en faire.
Moi non plus.
Là, bah alors, vous êtes sur cette musique.
Ah, vous êtes une très mauvaise commerciale. Ah, c'est horrible.
Mais non. Je vais vous emmener, on va à la sortie de cette matinale, on va aller sur du CrossFit.
Bon, merci Omblin.
Avec plaisir.
Je me tourne vers vous.
Oui, vous l'avez dit Julien, ce matin je vous emmène dans une ville que je crois vous connaissez bien.
Que c'est triste venir.
On change d'ambiance.
Autant des amours mortes.
Ah non, c'est pas triste, Venise.
Alors triste, peut-être pas, hein, mais un
j'y
peu...
J'y étais cet été, pour préciser.
Exactement, vous nous l'aviez dit hier. Mais alors, c'est peut-être pas triste, mais c'est sûrement un peu surpeuplé de touristes. Hein. La cité des Doges en accueille chaque année.
Ça, je confirme.
Des millions. Cet été, par exemple, 80 000 personnes en moyenne sont venues chaque jour admirer les légendaires cadeaux. Alors, pour les locaux, c'est trop, hein, beaucoup trop. La ville a donc décidé de limiter drastiquement l'accès à la ville aux touristes. À partir de l'été prochain, il faudra payer. Hein. Le ticket devrait coûter entre 3 et 10 euros. Hein. Vous devrez réserver un créneau à l'avance.
D'accord.
Et des tourniquets électroniques devraient même être installés à l'entrée de la ville pour vérifier que les touristes ont bien leur billet, comme à Disneyland.
Ouais.
Alors ce droit d'accès ne concernera que les visiteurs à la journée. Si vous allez passer une semaine à Venise, par exemple, vous en serez exempté, comme les enfants de moins de 6 ans et évidemment les habitants à l'année. Hein. L'objectif...
Bah encore eux.
Évidemment. L'objectif, hein, c'est de mettre fin à ce qu'on appelle le surtourisme. Hein. Ces hordes de visiteurs qui chaque année viennent saturer les lieux emblématiques de la ville. Les Vénitiens n'en peuvent plus, hein, des rues bondées, des loyers trop élevés, des logements qui se transforment en Airbnb. Ils manifestent leur colère depuis des années et beaucoup quittent la ville. Hein. Et oui, Venise, hein, malgré son image, perd chaque année des habitants. Et c'est pour enrayer ce phénomène que la ville a décidé de mettre en place ce système de réservation. Et ce n'est que la dernière mesure en date d'une longue série qui vise à protéger la Sérénissime des excès du tourisme de masse.
Là, vous allez nous parler des ferries.
Exactement. Alors, avant ça, ça a commencé en 2017 avec l'interdiction de construire de nouveaux hôtels dans le centre-ville. Et depuis cet été, on en a beaucoup parlé. Hein. Les ferries géants, les énormes bateaux de croisière, exactement, sont bannis du centre historique. Voilà, donc ce n'est que la dernière étape. Pour visiter Venise, il faudra bientôt payer et réserver son créneau. C'est à lire sur le site de Ouest France.
C'est étonnant, hein.
Comme je le disais, j'y étais cet été et il y avait beaucoup de monde, mais tous les restaurateurs et hôteliers me disaient c'est moitié moins que d'habitude. Alors, en temps normal, j'ose même pas imaginer ce que ça doit faire.
Et c'est peut-être un phénomène qui va, peut-être pas le fait que ça soit payant, mais les créneaux pour réserver. Je sais que dans les calanques à Marseille aussi, à partir de l'été prochain, il faudra aussi réserver pour faire face à l'afflux de touristes.
Bon. Merci Martin. On termine ce tour de table avec vous Julien.
Oui, j'ai choisi un article qui s'adresse à tous ceux qui s'apprêtent à prendre leur voiture pour rentrer de vacances. Et vous êtes nombreux, c'est le dernier gros week-end routier de l'année. Orange aujourd'hui dans le sens des retours, rouge en Île-de-France. Des bouchons, comme vous pouvez l'entendre. Hein. En perspective, qui pourrait bien cette année vous faire économiser quelques points sur votre permis et préserver votre porte-monnaie. Et pour cause, la quasi-totalité des radars automatiques seront de service, nous apprend Le Parisien. Voilà, merci pour les
vous allez beaucoup trop vite, ça, Julien.
Ouais, ouais, absolument. Là, j'ai perdu mon permis en 15 secondes.
C'est un drôle de bruit quand même, votre radar.
Ce n'était plus arrivé depuis la crise des Gilets jaunes, figurez-vous. Sur les 2248 cabines qui enrichissent nos bas-côtés, 75% d'entre elles avaient été soit détruites, soit attaquées, soit neutralisées il y a 2 ans. C'est de l'histoire ancienne. Nos chers serial flashers ont été réparés à grands frais. 500 € pour une vitre cassée, 200 000 pour le remplacement intégral par un engin de dernière génération. Ces fameux radars tourelles que vous avez peut-être déjà vus, difficilement vandalisables vu qu'ils sont juchés sur de gracieux pylônes hauts de 4 mètres. Eh bien, figurez-vous qu'une version miniaturisée, va prochainement faire son apparition dans les grandes villes. Comme son grand frère, ce mini-radar surélevé permettra de flasher les excès de vitesse dans les deux sens, les feux rouges grillés et, à l'avenir, d'autres infractions comme les distances de sécurité, le franchissement d'une ligne continue ou l'utilisation de son téléphone en main. 100 cabines de ce type seront déployées d'ici la fin de l'année pour une phase de test avant d'être installées partout en France. Bref, vous l'avez compris, respecter les limitations de vitesse, c'est encore le meilleur moyen de rentrer de vos vacances en vie et avec votre permis.
Voilà qui conclut le pressing du jour et on reste prudent. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes.
À tout à l'heure.
Pour le journal des sports, à tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 27 août, c'est le journal permanent avec Élise Anjan. Bonjour Élise.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 2011 contre les forces américaines en Afghanistan, revendiquée par le groupe État islamique. Elle a fait plusieurs dizaines de morts, dont 13 militaires américains visiblement secoués. Le président américain Joe Biden a promis en réaction de pourchasser et de faire payer les auteurs de l'attaque. La France poursuit malgré tout ses évacuations d'Afghans menacés par les talibans. Au total, plus de 100 000 personnes ont déjà été évacuées du pays par les Occidentaux. En France, le rythme s'accélère à droite. Alors que Laurent Wauquiez a renoncé à se présenter à la présidentielle de 2022, l'ancien négociateur du Brexit, Michel Barnier, a annoncé sa candidature hier soir dans la foulée du député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. La rentrée scolaire aura lieu, hormis aux Antilles, quelles que soient les difficultés sanitaires, dit le gouvernement, qui promet une dose de rappel du vaccin anti-Covid dans les EHPAD autour de la mi-septembre. Et puis Benjamin Mendy, accusé de 4 viols et une agression sexuelle. Les faits auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021. Le défenseur international français de Manchester City a été placé en détention provisoire. Il doit être présenté devant le tribunal aujourd'hui.
Merci Élise Danjean. Prochain journal à 5h30 avec Christophe Lamar.
Europe 1. Il est 5h21. Très bon réveil à tous avec à présent les initiatives en France. La chronique qui nous met de bonne humeur en mettant en lumière celles et ceux qui s'engagent, entreprises, associations, élus. Voilà, vous avez la parole sur Europe 1. Et ce matin, Julien, on va s'intéresser à une éventuelle solution pour remédier aux violents incendies qui ont émaillé l'été.
Oui, on a tous en tête ces images, que ce soit en Grèce ou plus près de nous, dans le Var, de ces immenses étendues de forêts calcinées et du balai incessant de canadaires et de bombardiers d'eau pour éteindre les flammes. Bonjour David Joubert.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes pilote de ligne et président fondateur de Kepler Evolution, entreprise basée à Toulouse qui développe un concept que l'on aurait bien aimé voir à l'œuvre cet été. Vous souhaitez transformer des avions de ligne destinés à la casse, des Airbus A330 en l'occurrence, en bombardier d'eau. Comment vous est venue cette idée ?
Mais écoutez, il y a quelques années, lors d'un vol, en faisant mon métier de pilote de ligne, j'étais à Los Angeles et le collègue avec lequel je volais a vu un 747 participer à de la lutte contre les feux au sud de Los Angeles, à San Diego. On a discuté de ce qu'il avait vu, de cette impressionnante révolution et on a rapidement pensé qu'un jour ça pourrait être utile en Europe.
Alors pour que nos auditeurs s'imaginent bien votre concept, un Airbus A330 c'est un biréacteur avec environ 200 places à l'intérieur et vous êtes en train de développer un système pour que l'appareil puisse larguer 40 000 litres d'eau, c'est bien ça ?
C'est ça. L'idée initiale, c'est de faire cette aventure technique, de transformer un avion de ligne en bombardier d'eau. Et petit à petit, ça s'est développé pour être une aventure aussi sociétale, puisque notre idée n'est pas seulement d'offrir un outil, mais bien un fonctionnement européen de mutualisation des moyens en mettant à disposition de l'Europe un outil de taille légèrement plus grosse que tout ce qui existe en ce moment.
Alors qu'on soit bien clair, le rechargement en eau se fera au sol, à l'arrêt, pas sur une étendue d'eau comme les Canadair rouges et jaunes que l'on connaît tous.
Effectivement, les Canadair et deux autres avions sont les seuls à venir capter leur eau sur des étendues d'eau, la mer ou des lacs ou des rivières. La plupart des autres avions sont des avions qui se rechargent au sol en un délai très court, entre 10 et 25 minutes en fonction des volumes des avions.
Les fameux Dash ?
Les Dash 8, utilisés par la sécurité civile, qui sont de très bons avions. La France en a 8. En revanche, ce sont des avions spécifiques pour l'utilisation en France et dans certaines parties de l'Europe. Moins bien adaptés peut-être à la projection dans différentes contrées quand la France veut aider d'autres pays ou même au-delà des océans.
Pour revenir à votre concept, c'est manœuvrable un avion de ligne à très basse altitude et à basse vitesse pour avoir la précision nécessaire? Il n'y a pas de risque accru de décrochage et donc d'accident?
Vous utilisez le bon terme, le décrochage c'est l'ennemi premier dans ce type d'activité puisqu'on est à très basse altitude avec des vitesses faibles. C'est suffisamment manœuvrable, tous les avions de ligne passent à chaque décollage et atterrissage dans des zones de basse altitude. Effectivement, quand on fait du largage, il y a des règles à respecter, des règles de sécurité qui sont adaptées. Mais depuis bientôt 20 ans, aux États-Unis, des 747 et des DC-10 prouvent que ce type d'activité est possible avec des avions de très grande dimension.
Oui, 747 qui est bien plus gros qu'un A330. Vous en êtes où au niveau du développement ?
Nous avons un concept validé en laboratoire grâce à un prototype à l'échelle 1/3. On respecte les similitudes par rapport à l'échelle 1, un peu comme ça se fait dans les souffleries pour les problèmes aérodynamiques. On a fait beaucoup de simulations numériques grâce aux différents systèmes de calcul numérique et aux supercalculateurs. On a pu améliorer l'intégralité du système depuis le remplissage jusqu'au largage. Notre objectif, c'est d'avoir un largage le plus homogène possible au sol, qui permet de faire des lignes de retardant de plus de 800 mètres de long sur 40 mètres de large.
Et un premier prototype volant à l'horizon
Alors pour le prototype volant, Airbus nous met à disposition un Airbus A330 et on attend la finalisation de financement, la prise de conscience d'investisseurs qui pourraient nous permettre de commencer les travaux le plus vite possible. Il faut 24 mois pour réaliser l'intégralité des travaux et nous on espère être opérationnel pour les JO 2024. Pour que les feux ne viennent pas gâcher la fête en France.
Ce qui serait un beau symbole, effectivement. Alors l'autre objectif, l'autre avantage de votre concept, c'est de recycler en quelque sorte des avions dont les compagnies aériennes ne veulent plus. J'imagine donc que le coût de la transformation que vous proposez serait plus avantageux que l'achat de bombardiers d'eau flambant neuf ?
Les Dash 8 dont vous parliez tout à l'heure, la France en a acheté 6 pour 400 millions d'euros, donc 66 millions chacun. Nous, le projet global, grâce justement à ce faible coût des avions d'occasion en ce moment, c'est 35 millions d'euros qui nous permet d'avoir une entreprise pleinement opérationnelle avec des personnels formés, prêts à répondre aux appels des États et en particulier de l'Organisation européenne de sécurité civile.
Merci beaucoup David Joubert d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué votre concept d'avion de ligne transformé en bombardier d'eau, idée portée par Kepler Evolution, l'entreprise que vous avez fondée. À très bientôt sur Europe 1.
Je vous remercie beaucoup, on viendra vous raconter la suite de l'aventure.
Avec plaisir.
Il est actuellement en pleine tournée d'adieu. Elton John sera à Bercy à Paris les 10, 12, 13 octobre et il crée la surprise en cette rentrée en invitant la nouvelle star de la pop Dua Lipa à chanter avec lui. Cold Heart, c'est pas vraiment un inédit, vous allez reconnaître des mots, des classiques d'Elton John. Cold heart.
C'était Cold Heart sur Europe 1, duo entre Elton John et la chanteuse anglaise Dua Lipa.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon vendredi, bon réveil. On vous accompagne très tôt si vous partez travailler. Sur la route du retour, si vous rentrez de vacances aussi, hein, on en parle ce vendredi. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30 avec au programme de la prochaine demi-heure, Julien.
La prescription culture de notre spécialiste musique, Stéphanie Loire. Elle va nous parler des héritiers du plus grand groupe de grunge de l'histoire, j'ai nommé Omblin.
Nirvana ?
Oui, voilà.
Bien sûr.
Et puis dans une dizaine de minutes, votre interview.
Dans les années 80, donc c'était avant Nirvana, faire tomber le haut du maillot de bain à la plage était l'un des symboles forts de l'émancipation des femmes, revendiquer sa liberté, sa féminité. Les temps changent, hein, Julien, on ne bronze plus seins nus sur le sable. Pourquoi ? Eh bien, par crainte d'être scruté, harcelé, voire agressé. C'est ce que nous dit cette nouvelle étude de l'IFOP et on en parle à 5h40.
La météo à 5h29 à Nissa Dadi, avant l'arrivée du soleil, matinée nuageuse dans le nord.
Oui, très nuageuse encore, c'est vrai que c'est pas terrible hein, ce matin sur les Hauts-de-France jusqu'au Grand Est en passant par la région parisienne, les Ardennes et même jusqu'en Auvergne. Ils descendent assez bas hein, les nuages ce matin, ciel très couvert donc avec quelques gouttes même dans le nord-est. Et puis cette bise, hein, ce vent du nord qui souffle encore aujourd'hui et qui fait baisser les températures. Alors au bord de l'Atlantique et au bord de la Méditerranée, là rien à signaler, le ciel est bien dégagé. Attention ce matin dans les Pyrénées et le Languedoc, si vous prenez la route, des brouillards assez nombreux sont attendus. Et puis cet après-midi, c'est un peu mieux. Le ciel va se dégager sur une grande partie du pays, mais on a toujours des nuages dans le nord, les Hauts-de-France, la région parisienne, qui pourront lâcher quelques gouttes. Allez, cet après-midi, quelques températures, 19 à Cherbourg et 32 à Perpignan. C'est juste le grand écart.
Absolument. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, il est 5h30.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Des dizaines de morts, dont au moins 13 militaires américains et une vingtaine de blessés. Le bilan reste très provisoire ce matin, encore après les deux attentats suicides hier qui ont visé l'aéroport de Kaboul et un hôtel à proximité. Attaque revendiquée par l'État islamique. Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer, a déclaré le président américain Joe Biden. Sur place, les Américains poursuivent les opérations d'évacuation. La peur du virus, oui. La peur du vaccin, non. Olivier Véran critique la défiance à l'égard de la vaccination. Un tiers des plus de 80 ans n'est toujours pas vacciné. Un public qui n'est pas hostile par principe mais qui doute de son utilité pour la vie de tous les jours. Et puis il y a encore trop d'images dégradantes de la femme sur internet et notamment sur YouTube. C'est ce que dénonce un rapport de la Fondation des Femmes. Un tiers des vidéos diffusées font l'apologie du sexisme selon cette étude. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien. Kaboul sous le choc après le double attentat qui a frappé l'aéroport. Le bilan reste encore provisoire et surtout contradictoire. Les Américains affirment que 13 de leurs soldats ont été tués. Le régime taliban recense une vingtaine de morts et 52 blessés. Mais ce décompte macabre n'est peut-être pas terminé. Une source gouvernementale talibane affirme que l'on pourrait dépasser les 50 morts. L'attaque s'est produite dans deux secteurs différents. Une première explosion devant l'une des portes d'entrée de l'aéroport. Une deuxième contre un hôtel à proximité. Sur place, la panique a succédé au chaos. Récit Marion Gauthier.
Lorsque la première déflagration retentit, Ziar est assis à son bureau. Ce journaliste de 28 ans ne comprend pas immédiatement que c'est un attentat.
Je me disais, mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, là, et ça a explosé encore et encore. Mais les Afghans sont habitués à cette situation. Ceux qui étaient nés en 2001 se retrouvent dans la même situation aujourd'hui. Il n'y a pas de changement, c'est la guerre, toujours la guerre. Je suis né dans un pays en guerre, j'ai étudié dans un pays en guerre et je travaille dans un pays en guerre.
Rapidement, le jeune homme relaie des photos de la double explosion. Des femmes en sang et en pleurs, des corps transportés dans des brouettes. Il appelle l'hôpital, des centaines de blessés de tous les âges.
Dans beaucoup de maisons de Kaboul, les gens pleurent parce qu'ils ont perdu leurs enfants, leurs femmes. Tous les Afghans sont tristes aujourd'hui. On se dit qu'on est perdu. Tous nos espoirs sont morts.
Il s'était promis de ne jamais quitter son pays, de se battre pour la démocratie et la liberté. Aujourd'hui, Ziar veut partir avec sa famille, sans grand espoir d'y parvenir.
Un reportage Marion Gauthier.
L'État islamique a revendiqué ce double attentat qui sonne, Christophe, comme un avertissement lancé aux États-Unis.
Et 20 ans après le début de l'intervention américaine en Afghanistan, censé les chasser, les islamistes sont toujours là. Hier soir, le président Joe Biden, manifestement sonné, leur a promis des représailles.
Les membres de l'armée américaine qui ont perdu la vie aujourd'hui étaient des héros. À ceux qui ont commis cette attaque, sachez que nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous pourchasserons et nous vous le ferons payer. Les terroristes ne nous intimideront pas, ils ne nous feront pas arrêter notre mission, nous poursuivrons les évacuations.
Le président américain qui maintient donc les opérations d'évacuation, tout comme la France. Le gouvernement envisage d'évacuer encore plus d'une centaine d'Afghans, précise Emmanuel Macron, qui dit condamner avec la plus grande fermeté les attentats terroristes. L'ambassadeur de France, David Martineau, en poste à Kaboul, doit être rapatrié à Paris dans les heures qui viennent.
5h34 sur Europe 1. Après Jean-Michel Blanquer hier, Olivier Véran a fait sa rentrée à son tour pour faire le point sur l'épidémie. Le ministre de la Santé en a profité pour fustiger ceux qui doutent du vaccin.
L'objectif de 50 millions de primo-vaccinés sera atteint dès la mi-septembre. Mais le ministre de la Santé veut aller plus loin, c'est-à-dire vacciner le plus de monde possible. Il y a bien sûr les 12-17 ans vaccinés à 60% et la campagne qui débute à l'occasion de la rentrée scolaire devrait encore gonfler ce chiffre.
Il y a aussi les réfractaires, très critiqués par le ministre, mais ils ne sont pas tous anti-vax.
Un tiers des plus de 80 ans, par exemple, n'a toujours pas reçu la moindre injection et ce n'est pas toujours par opposition de principe. C'est aussi parce qu'il s'agit souvent de personnes seules, pas de contact. Pas de sortie, l'intérêt de se faire vacciner ne leur saute pas aux yeux. Reportage Zoé Palier.
Une méfiance qui date de 1947. Colette a alors 17 ans, elle reçoit 3 doses de vaccin anti-diphtérie et tombe gravement malade.
À partir de ce moment-là, j'ai été craintive quand il s'agit de vaccins.
En janvier dernier, les plus de 75 ans sont les premiers à pouvoir se faire vacciner contre le Covid. Colette préfère alors rester chez elle, dans un petit village de Haute-Corse. Et aujourd'hui encore, pas question pour elle d'aller se faire vacciner.
Étant donné que je vis à la campagne, que j'ai pas tellement de contacts et de choses comme ça, j'essaierai de m'en passer. Le restaurant et le cinéma, non, à 91 ans, je peux faire une exception et ne pas y aller pendant un certain temps.
Comme Colette, 600 000 personnes de plus de 80 ans ne sont pas vaccinées, la plupart parce qu'elles vivent isolées, explique Olivier Guérin. Il est président de la Société française de gériatrie.
La vaccination collective en centre de vaccination est difficile pour eux. Il faut prendre un rendez-vous sur Doctolib, puis se déplacer. Du coup, il faut faire ce qui a été fait dans les autres pays qui ont réussi à vacciner mieux que cette population qui est le plus à risque, c'est-à-dire du porte-à-porte, hein, leur amener le vaccin finalement.
Et le gériatre insiste, il faut mener ses efforts parallèlement à la campagne de rappel pour les seniors qui ont déjà reçu 2 doses.
Zoé Palier, le ministre de la Santé, qui n'exclut pas par ailleurs de prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre si le Covid ne disparaît pas de nos vies dans les 3 prochains mois, a expliqué Olivier Véran.
La politique, ils sont désormais 4 candidats à se lancer dans la primaire de la droite pour la présidentielle.
Dernier candidat à en date, Michel Barnier, l'ancien ministre, annonce sa candidature à la présidentielle et s'en explique ce matin chez nos confrères du Figaro. Autre candidature, celle du député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti. La surprise en revanche est venue du président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Laurent Wauquiez renonce à se lancer dans la course.
Cette question à présent, YouTube fait-il l'apologie du sexisme? Cette plateforme vidéo est en tout cas visée par un rapport accablant.
La Fondation des femmes a visionné 200 vidéos entre 2019 et l'an dernier. Elle relève une dégradation de l'image de la femme, stéréotype du genre, culte de la femme objet. Le sexisme y règne donc en maître selon les auteurs du rapport, Damien Mestre.
Dans ce clip vu près de 80 millions de fois, on voit un homme aborder une femme qui passe dans la rue. Une remarque explicite sur ses fesses, la fille ne s'arrête pas et le chanteur la fait passer pour une allumeuse. Ça, c'est pour les paroles, mais il y a aussi les images, le plan suivant. On voit des femmes en string et haute bikini s'asperger d'eau à l'arrière d'un pick-up. De vieilles recettes misogynes que l'on retrouve dans beaucoup de ces clips musicaux, des clips qui représentent les 3/4 des contenus les plus visionnés sur YouTube. Les hommes, ils sont généralement dépeints en macho, hyper virilisés, quand les femmes, elles, sont cantonnées à des figures de second plan, sentimentales, séductrices et bien sûr très sexualisées. Le constat est donc accablant pour l'association qui en appelle à plus de régulation. Sylvie-Pierre Brossolette de la Fondation des femmes et ancienne membre du CSA.
L'idéal serait une disposition législative qui fasse entrer dans le champ de la régulation du CSA l'image des femmes sur Internet. Et puis sinon, pas donner des financements publics à des vidéos si elles ne respectent pas un certain nombre de règles de respect de l'image des femmes.
L'association qui demande également plus de volonté de la part de ces plateformes numériques qui ont déjà prouvé leur capacité d'autorégulation.
Damien Mestre.
On passe au foot avec le tirage au sort de la Ligue des Champions et ce ne sera pas simple pour le Paris Saint-Germain.
Manchester City, RB Leipzig et le FC Bruges, ce seront les adversaires des Parisiens pour le premier tour qui commencera le 14 septembre. Lille de son côté, affrontera le FC Séville, les Autrichiens du RB Salzbourg et les Allemands de Wolfsburg.
On parlait du PSG il y a quelques instants, Christophe. Le club semble prêt à laisser partir la star Kylian Mbappé.
Les dirigeants parisiens ont au moins ouvert la porte à son départ. Ils ont accepté de discuter avec le Real Madrid. Il faut souligner que les Madrilènes ont fait une nouvelle offre à 180 millions d'euros pour enrôler l'attaquant français. Ceci explique peut-être cela.
Effectivement, c'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est un mini Quintet Plus qui nous est proposé ce soir à Cabourg, puisqu'il réunira 13 partants avec néanmoins un bon favori, le numéro 11, Frenchman, prometteur 4e le 23 juillet du Grand Prix de la ville de Cabourg, sans avoir pu réellement s'exprimer dans la phase finale, étant bloqué derrière un rideau de chevaux qui n'avançait plus, il trouve ici une occasion idéale de rembourser ses nombreux supporters. On lui opposera les numéros 3, Flower by Magalou, et 8, Everdream Music, deux juments fiables sur lesquels on peut toujours compter. Ensuite, je vous recommande Festif Charmant, le numéro 7, à ne surtout pas condamner sur ses deux derniers échecs, ayant bien retravaillé depuis, avec Follet Buissonnet, le numéro 9, pas incapable d'accrocher une place à une cote spéculative à l'issue d'un parcours caché. Enfin, les numéros 2, Flya Kaluma, 5, Cléa Mikkelri et 12, Design Genilou compléteront ma sélection. Mon pronostic, 11, 3, 8, 7, 9, 2, 5 et 12.
Et tous ces pronostics, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à lundi. Vous restez avec nous dans un instant, mon interview actuelle autour de cette question. Et si le monokini était voué à disparaître? C'est vrai qu'on en voit en tout cas de moins en moins sur les plages. Et c'est ce qu'a analysé mon invité Chloé Tény, chargée d'études à l'IFOP. A tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h41 et c'est l'heure de votre interview, Omblin. C'était l'un des symboles d'émancipation dans les années 80 et on apprend dans une étude de l'IFOP que les femmes sont de moins en moins nombreuses à se mettre seins nus sur la plage. Aujourd'hui, les Français sont seulement 19% à pratiquer le topless, alors qu'en 1984, presque une femme sur deux faisait tomber le haut du maillot de bain. Et vous en parlez, Omblin, avec Chloé Tény, chargée d'études à l'IFOP.
Bonjour Chloé Tény.
Bonjour.
Pourquoi le monokini n'a plus la cote?
Eh bien écoutez, on voit déjà qu'il y a quand même une forte décroissance de la pratique du topless en France par rapport aux années 80, hein, comme vous le rappeliez. C'est 19% des Françaises et c'est seulement 16% des Françaises de moins de 50 ans. Si la thématique sanitaire reste le principal motif de cette baisse du topless, pour les jeunes femmes de moins de 25 ans, c'est surtout des motifs d'ordre sécuritaire qui sont en cause, à savoir la crainte d'être l'objet d'agressions physiques ou sexuelles pour une femme sur deux, de subir un regard concupiscent des hommes pour 48% d'entre elles, ou encore qu'une photo soit prise et publiée sur les réseaux sociaux pour 46% d'entre elles. Et donc c'est déjà un phénomène assez majeur de cette génération qui peut expliquer le déclin du topless et surtout le fait que cette pratique ne se renouvelle pas parmi les jeunes générations.
Donc vous dites que la pratique du topless dépend du regard des autres.
Oui, surtout chez les jeunes, puisque c'est les plus enclins au phénomène de body shaming, donc nommer la honte du corps et d'avoir des complexes par rapport au fait de dévoiler certaines parties de son corps vis-à-vis des autres, et puis surtout que ce regard soit finalement malveillant, puisque aujourd'hui c'est quand même une femme sur deux qui craint d'avoir des remarques sur une partie de son corps, notamment les parties généralement assez sexualisées et intériorisées comme telles que le ventre, la poitrine ou les fesses.
Donc ça, c'est des femmes qui craignent d'être scrutées, d'être jugées sur leur physique. Est-ce qu'elles craignent le regard des hommes et surtout de se retrouver dans une situation où elles sont harcelées?
Oui, tout à fait. C'est exactement ce que tente en tout cas de montrer le sondage. On voit qu'il y a quand même un net recul de la pratique du topless sur les plages publiques qui sont très fréquentées. Donc plus la plage est fréquentée, moins les femmes osent se dévêtir, alors qu'ils stagnent et progressent un petit peu sur les plages un peu moins fréquentées. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ce sondage révèle qu'une femme sur deux a déjà fait l'objet l'objet d'une forme de harcèlement ou d'atteinte sexuelle sur la plage ou dans un lieu dédié au bain. Et pour un quart d'entre elles aussi, ça peut revêtir des formes très graves. Donc elles sont victimes d'atteinte et d'agression sexuelle dans un lieu dédié au bain. Ces formes très graves peuvent être de l'exhibition forcée, ça concerne 19% d'entre elles, des mesures à caractère sexuel pour 9% d'entre elles et des attouchements pour 13% d'entre elles. Donc on voit aujourd'hui que l'espace public plage pour les femmes n'a quand même pas la même connotation que pour les hommes.
Oui, puis ça a changé aussi du côté des mentalités. Ce n'est plus un espace de liberté comme ça pouvait l'être dans les années 80. Désormais, on a plus tendance à se cacher, ce qui est étonnant.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que par rapport aux années 70-80 où il y avait finalement ce topless qui était un petit peu le symbole aussi de la libération du corps des femmes et puis le droit des femmes à disposer de leur corps, aujourd'hui on voit, et d'autant plus ce phénomène est renforcé avec les réseaux sociaux, que la crainte finalement dépasse un petit peu cette envie de faire du topless parce que les signes de harcèlement ou du moins les risques sont trop présents dans l'environnement des femmes aujourd'hui.
Vous évoquez justement les réseaux sociaux avec la multiplication d'images de corps parfaits, est-ce qu'ils ont leur part de responsabilité?
Bien sûr, oui, c'est ce que j'essayais tout à l'heure de mentionner avec notamment le body shaming. On voit notamment que les jeunes femmes qui s'exercent encore au topless aujourd'hui sont des femmes qui correspondent globalement aux standards des canons de beauté et aux diktats esthétiques en vogue dans notre société actuelle. Et pour autant, celles qui justement osent le moins sont celles qui se sentent un peu plus complexées ou qui ont du mal à faire face à leur image et surtout au regard d'autrui par rapport à leur corps.
Dernière question pour aller juste un petit peu plus loin. Je voudrais savoir si la société redeviendrait puritaine. En juillet dernier, dans un célèbre parc d'attractions, des agents de sécurité ont demandé à une femme d'arrêter d'allaiter. Au mois d'août, c'est l'affiche du prochain film de Pedro Almodovar sur laquelle on voit une goutte de lait suspendue à un téton qui a été retirée d'Instagram. Il y a un problème avec les poitrines des femmes? Est-ce que vous avez ressenti ça dans votre sondage?
Ce qu'on ressent, c'est que les femmes n'ont pas forcément de mal avec leurs parties intimes, fort heureusement, même si on voit que c'est soumis à quand même des complexes du fait du regard d'autrui. Maintenant, là où les femmes sont bien conscientes, en fait, de cette hypersexualisation finalement des seins féminins et du degré d'admissibilité sociale dans l'espace public et l'interdiction spécifique dont ils font l'objet parfois dans des lieux dédiés au bain, comme ça peut être le cas dans les parcs ou dans les piscines. Donc finalement, je ne sais pas si on peut parler de retour de puritanisme à ce niveau-là, même si effectivement il y a des événements qui tendent à le penser. En tout cas, ce qu'on peut observer et ce qui est toujours prégnant par rapport au combat qui a été mené dans les années 70 où le but était de désexualiser finalement cette partie du corps, c'est toujours très présent aujourd'hui dans notre société.
Merci Chloé Tenny d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes chargée d'études à l'IFOP.
Merci.
5h46 sur Europe 1, l'heure de notre prescription culture.
Et le vendredi, c'est musique.
Bonjour Stéphanie Noir.
Bonjour à tous. Bonjour Julien, bonjour Ambline.
Et Stéphanie, vous revenez ce matin sur l'album Nevermind de Nirvana qui va fêter ses 30 ans cette année.
Oui, Nevermind, l'album qui allait offrir une notoriété planétaire à Nirvana, celui qui allait provoquer un séisme dans le paysage du rock et qui s'est écoulé à 30 millions d'exemplaires, sortait le 24 septembre 91, il y a bientôt 30 ans, jour pour jour. Alors, hasard du calendrier ou non, le bébé, aujourd'hui trentenaire, qui apparaît nu en train de nager sous l'eau pour attraper un billet $1 sur la couverture de l'album Nevermind, on l'a tous vu cette image, eh bien, il a décidé de porter plainte contre Nirvana. Il s'appelle Spencer Elden. Il accuse le groupe d'avoir enfreint plusieurs lois contre la pédopornographie et de lui avoir causé une vie de souffrance en diffusant son image.
Et selon les avocats de Spencer Elden, ses parents n'auraient jamais signé de décharge autorisant l'utilisation de cette photo prise dans un centre aquatique en 1990 alors que le bébé était âgé de 4 mois, ni reçu de compensation financière.
Tout à fait, mais revenons à la musique avant tout, pour le plaisir, pour être sûr que tout le monde est bien réveillé ce matin, pour se rappeler de la puissance du plus grand groupe grunge de l'histoire, on écoute un peu de Smells Like Teen Spirit. Ah, il y a eu du mal à sortir de Nirvana. Pas besoin de vitamine C ce matin, ça va bien vous réveiller cette chronique. Quand Nirvana publie Nevermind en 91, c'est l'onde de choc. Le chanteur du groupe, Kurt Cobain, devient l'incarnation de toute une génération désabusée. Avec Avec Nevermind, Cobain avait réussi à exprimer toute la frustration d'une jeunesse révoltée dans l'ombre du sida et en quête de symboles. Le phénomène sera d'une telle ampleur qu'il redéfinira complètement la stratégie de l'industrie du disque. Après cet album, les labels étaient prêts à signer n'importe quel artiste au look grunge qui savait à peu près faire de la musique. Si le groupe a brutalement tout arrêté en 1994, après le suicide de Kurt Cobain broyé par la célébrité, trois décennies plus tard, Nevermind continue de battre des records. Il s'écoule encore à des centaines de milliers d'exemplaires. En 2020, il figurait notamment dans le top 5 des disques vinyles les plus vendus au Royaume-Uni.
Ah oui, quand même. Et musicalement, Stéphanie, qui sont les héritiers de Nirvana ?
Plusieurs groupes aux inspirations grunge peuvent se réclamer comme étant les descendants de Nirvana. Il y a Wave et son surf rock californien bien inspiré, un groupe originaire de San Diego qui a de toute évidence été nourri au Nirvana dans son biberon. Parmi les héritiers de Nirvana, il y a aussi un trio rock bien bruyant. Il s'appelle Metz. Ils portent le nom de la capitale Lorraine, mais ils viennent de Toronto. Ça se consomme tôt le matin, ce genre de musique. Un groupe qui a été signé par Sub Pop Records, le label de Seattle qui a enrôlé Nirvana en 89. Mais la véritable descendance de Kurt Cobain, celle qui a été adoubée par Dave Grohl, alors ça va en surprendre certains probablement, ex-Nirvana et actuel leader des Foo Fighters, c'est Billie Eilish, la chanteuse qui affole les compteurs depuis la sortie de son premier album en 2019, alors qu'elle n'avait que 17 ans et qui s'est vendue à 18 millions d'exemplaires dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Dave Grohl. Il a déclaré à son sujet « Mes filles sont obsédées par Billie Eilish. Il se passe avec elles ce qu'il s'est passé avec Nirvana en 91. Les gens se demandent si le rock est mort. Quand je regarde Billie Eilish, je me dis que le rock est loin d'être mort. » Billie Eilish et Kurt Cobain ont en tout cas en commun cette créativité écorchée vive, mais authentique, qui sonne vrai et qui touche le public en plein cœur.
Merci Stéphanie Loire pour ce rendez-vous musique, cette chronique. On vous retrouve à partir de lundi de 20h à 22h dans la bien nommée émission Musique sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h51, c'est le journal permanent. L'essentiel de l'actualité de ce vendredi matin avec Élise Dangean. À la une, Élise.
La crise afghane qui a pris un nouveau tour dramatique hier. Un double attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique a fait des dizaines de morts, dont 13 militaires américains à l'aéroport de Kaboul. Le locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, promet de pourchasser les auteurs de l'attentat. Les évacuations vont se poursuivre jusqu'au 31 août. Un an après leur hospitalisation pour Covid, fatigue et essoufflement sont encore au rendez-vous pour de nombreux patients. Environ la moitié, c'est la conclusion d'une étude chinoise qui appelle dans la revue médicale The Lancet à mieux prendre en compte les effets à long terme de la pandémie. La PDG du mouvement Time's Up, créée par des célébrités pour défendre les femmes contre le harcèlement, a démissionné. Elle était accusée de complaisance envers l'ex-gouverneur de New York, Andrew Cuomo, lui-même poussé au départ après de nombreux témoignages de harcèlement sexuel. Enfin, une médaille assurée pour la France aujourd'hui aux Jeux paralympiques de Tokyo. Dorian Foulon courra un peu avant 9h la finale de la poursuite en cyclisme sur piste avec à la clé l'or ou l'argent.
Merci beaucoup Élise Dangean, journal complet à 6h avec Roman Hockey.
Europe Matin.
Et après l'info nationale et internationale, penchons-nous maintenant sur l'actualité au plus près de chez vous, l'un de vos nouveaux rendez-vous du matin baptisé C'est en France. Un article de la presse régionale raconté par celles et ceux qui l'ont écrit. Et ce matin, Julien, direction l'Aube.
Bonjour Bruno Dumortier.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef à l'Est Éclair, où l'on peut lire ce matin un article sur des viticulteurs de Villeneuve-la-Grande, c'est dans l'Aube, viticulteurs qui se sont engagés pour une culture raisonnée.
Une initiative qui a commencé il y a déjà 15 ans. En fait, les viticulteurs se sont lancés dans une technique qui est la confusion sexuelle pour se passer d'insecticides. Avec des phéromones, les insectes étaient perturbés, pas de reproduction, pas d'attaque sur les grappes. Et du coup, ils se passent aujourd'hui totalement d'insecticides sur toute la commune de Villeneuve. Il y a une quarantaine d'exploitants quand même, hein, sur 100 hectares, donc c'est pas neutre. Et c'est une belle initiative et qui aujourd'hui, on a engagé d'autres avec des vignerons qui vont plus loin.
Alors l'article permet de découvrir entre autres l'histoire d'une vigneronne qui explique pourquoi elle s'est engagée vers une production plus raisonnée et respectueuse de l'environnement.
Hélène Monlot, elle s'est lancée dedans parce que son père déjà était à l'origine des opérations de limitation des insecticides et elle a décidé d'aller plus loin. Alors elle se passe de tout herbicide, c'est-à-dire que les herbes entre les pignes, il faut notamment les traiter pour qu'il n'y ait pas d'herbe et que les champignons n'attaquent pas la grappe au moment où elle commence à grossir au printemps. Eh bien, elle retourne la terre, elle la travaille, ça lui demande quand même 2 à 3 mois de travail supplémentaire par rapport au passage d'un simple herbicide. Hein,
c'est énorme.
Beaucoup de travail, c'est énorme, pour un vrai investissement, mais qui permet d'avoir des vignes qui sont saines, propres, à condition de bien les travailler. Et du coup, elle a essayé d'aller aussi plus loin, parce que quand on s'engage dans ces démarches-là, on a toujours envie d'aller un tout petit peu plus loin, et elle va aussi vers des plantations entre les ceps, parce que là, du coup, ça lui permet de maîtriser ce qu'elle va laisser pousser entre les vignes.
Et puis, elle a installé, je crois, aussi des ruches.
Tout à fait. Tant qu'à faire, elle sème des petits pois, du blé entre les vignes, et elle sème aussi du sainfoin. Alors, le sainfoin, c'est une plante très fleurie, qui était jadis une plante qu'on utilisait comme fourrage pour les animaux. Et ses fleurs sont très appréciées des abeilles. Elle a fait venir un apiculteur qui a installé 7 ruches autour de ses vignes. Et ça permet évidemment d'aller beaucoup plus loin en termes de biodiversité pour tout l'ensemble de l'environnement autour des vignes qui sont souvent un peu mal vues, surtout il y a jadis quand on déversait des herbicides à gogo. Et là, bah, c'est l'inverse. Les vignerons deviennent des acteurs de la biodiversité.
Oui, elle dit « J'ai beaucoup souffert en tant qu'ado et fille d'agriculteur que l'on me dise que mes parents étaient des pollueurs. »
Tout à fait. C'est comme tout un peu l'appellation Champagne, hein, il y a une vingtaine, trentaine d'années où on commençait à pointer du doigt les techniques utilisées dans la viticulture. Aujourd'hui, toute la Champagne est en train d'évoluer à l'image d'Hélène, mais à l'image de bien d'autres viticulteurs. Il y en a aussi qui sont déjà dans la bio, bien avancés, bien plus avancés encore. Et aujourd'hui, c'est un mouvement général où on retourne sur des techniques qui permettent de se passer un maximum de produits phytosanitaires, alors que c'est pas facile parce qu'on est quand même très au nord et que, bah, par exemple, les champignons, c'est très agressif dès qu'il pleut et il a beaucoup plu.
Et c'est le cas cette année.
Et oui, et les vignerons bio, par exemple, ont dû travailler énormément parce que comme ils ne peuvent pas utiliser de fongicides pour retraiter avec... par exemple, le cuivre hein, qu'on utilise pour essayer de protéger des champignons et les attaques de champignons qui ont été terribles, hein, notamment sur les tomates. Par exemple, dans la région ici, personne n'a de pied de tomate dans son jardin car le mildiou a tout ravagé. Et pour les vignes, ça aurait pu être la même chose, sauf à travailler beaucoup pour pouvoir maintenir la qualité de la feuille. Sinon, le champignon ravage tout.
Merci beaucoup, Bruno Dumortier, d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir fait découvrir l'un des articles à lire aujourd'hui dans L'Est éclair. Bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Bonne journée, au revoir. 1, 2, 3, 4.
Bon début de matinée sur Europe 1, bon réveil ce vendredi 27 août. Dans 2 semaines et demie, il débutera sa tournée. Christophe Maé est sur Europe 1.
Father.
Maé sur Europe 1. Il y a du soleil. Eh bien, on va voir ça dans 30 secondes avec la météo d'Anissa Haddadi.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Voici le programme de la prochaine demi-heure.
Et pour commencer votre interview actuelle, Julien, autour de ce constat, c'est l'euphorie du côté des prêts immobiliers.
134 milliards d'euros, c'est le montant total de crédits immobiliers que les banques ont prêté aux particuliers au premier semestre, du jamais vu depuis 4 ans. Comment l'expliquer, cet emballement va-t-il durer? On en parle dans tout juste 10 minutes avec une experte du courtage immobilier. Et puis à 6h20, Omblin, votre partition.
Une bande de joyeux drilles, direction l'Angleterre en plein mouvement Britpop. Il n'y a pas que Blur et Oasis dans la vie, il y a Supergrass aussi.
Il n'y a pas que des nuages et de la pluie à 5h59, il y a aussi du soleil, Anissa Haddadi.
Oui, alors aujourd'hui...
Alors,
il y aura du soleil si vous êtes dans le sud, et dans le sud, allez-y, profitez-en si vous êtes en vacances, vraiment, il va falloir profiter de ce soleil. Mais comme d'habitude, on a une France coupée en deux aujourd'hui, et comme d'habitude, c'est la Loire qui va servir de frontière entre le nord et le sud. Donc ce matin, sur la moitié nord, en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, bassin parisien, Nivernais, Grand Est, et même jusqu'en Auvergne, les nuages sont nombreux, des nuages bas qui sur l'extrême nord ont du mal à se dissiper, vous l'avez compris, ça veut dire qu'ils seront là encore cet après-midi, pourront même lâcher quelques gouttes sur le nord-est. Sur la moitié sud, il fait beau, mais attention, Mistral, Tramontane et le vent d'ouest soufflent fort encore aujourd'hui. Les températures, 19 à Cherbourg, 22 à Paris, 27 à Nice, 30 pour Bastia, je continue, 32 pour Périgueux.
On descend encore.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Double explosion meurtrière hier à Kaboul. Parmi les dizaines de victimes, 13 soldats américains. Une attaque revendiquée par l'État islamique avec une cible, l'Amérique, nous dira notre correspondant à New York. Dans ce journal, vous entendrez un témoignage exceptionnel, celui de Yasmine. Cette jeune femme afghane raconte le chaos et la panique à Kaboul après l'attaque. Le footballeur Benjamin Mendy se réveille en prison ce matin. Le champion du monde français 2018, accusé de viol et d'agression sexuelle, a été placé en détention provisoire. Et puis à la fin de ce journal, Quentin Tarantino, pas le réalisateur, non, Quentin Tarantino, mais l'écrivain, il sort son premier roman et devinez quoi, ça parle d'Hollywood. Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. L'horreur à Kaboul où des détonations ont résonné hier au coucher du soleil dans la capitale afghane. Une double explosion près de l'aéroport dans une zone contrôlée par les États-Unis. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Le bilan pourrait atteindre les 60 morts selon un membre du gouvernement pré-taliban. Et parmi les victimes, 13 soldats américains.
Bonjour Alexis Guilleux.
J'étais juste à côté de l'aéroport. J'ai entendu l'explosion.
Alors, on a un petit problème. Ce n'est pas le Alexis Guilleux que l'on entend actuellement. On va peut-être le retrouver dans un instant. Alors, au-delà des États-Unis, ce sont des dizaines d'Afghans qui ont perdu la vie dans cette double attaque.
Et justement, écoutez à présent ce document européen exceptionnel. C'est le témoignage de Yasmine qui tentait hier de prendre un avion pour la France.
J'étais juste à côté de l'aéroport. J'ai entendu l'explosion. Je ne peux même pas imaginer combien de personnes ont été tuées là. Je les ai vues de mes yeux. J'ai vu le sang, celui des enfants, des femmes, des hommes. Tout le monde courait. J'ai juste suivi le mouvement et je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas les mots. Je me sens vraiment pas bien. Ensuite, on a entendu des coups de feu, d'autres explosions. Je me suis dit, mais aidez-nous, mon Dieu, mais aidez-nous. Est-ce qu'être afghan est un crime? Aujourd'hui était un jour noir pour l'Afghanistan. Il restera gravé dans chaque mémoire. Et tout ça va recommencer. Il y aura encore des attentats. Tous les Afghans sont en danger. Je suis en danger. Les talibans essaient de me trouver. Moi, mon mari, comme n'importe quel ancien employé du gouvernement. J'ai peur de ça. J'ai déménagé pour qu'ils ne me trouvent pas. Je veux juste partir. S'il vous plaît, aidez-nous.
Le témoignage poignant de Yasmine, jeune femme afghane, avec Marion Gauthier pour Europe 1. Nous avons retrouvé notre correspondant aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Dans cette attaque, Alexis, ce sont clairement les États-Unis qui ont été visés. Une attaque qui ne restera pas impunie, c'est ce qu'a dit le président américain cette nuit.
Oui, Joe Biden, visiblement très marqué par les événements, ému, il a demandé un moment de recueillement en mémoire des victimes. La mâchoire serrée lors de sa conférence de presse, il a promis de traquer les terroristes et de leur faire payer cette attaque. Le président américain a déjà réclamé au commandement de son armée des plans pour frapper les dirigeants et les installations du groupe État islamique. Le Hui qui, dans son communiqué, s'est vanté que son kamikaze a pu approcher à moins de 5 mètres des soldats américains. Avec 13 morts, c'est la journée la plus meurtrière en Afghanistan pour l'armée américaine depuis 10 ans. Lors de son discours, Joe Biden a précisé que pour le moment, il n'y avait aucune preuve de complicité entre les talibans et les terroristes. En tout cas, c'est le scénario cauchemar pour le président américain, lui qui promettait un retrait sûr et en bon ordre d'Afghanistan. Alors plusieurs ténors de l'opposition républicaine réclament sa démission, même si aux États-Unis, l'opinion publique reste majoritairement favorable au départ d'Afghanistan. La question qui se pose désormais, c'est quelle sera la suite? Les talibans seront-ils en mesure de contrôler le pays? Sur CNN hier soir, l'ancien patron de la CIA, Leon Panetta, a lui déjà évoqué la possibilité de devoir retourner en Afghanistan pour s'occuper du groupe État islamique.
Merci Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 à New York. Les États-Unis qui vont, malgré l'attaque, poursuivre les évacuations, comme la France qui va tenter d'évacuer plusieurs centaines de personnes. C'est ce qu'a promis hier Emmanuel Macron, mais sans garantie de résultat. Les opérations d'évacuation pour la France doivent prendre fin ce soir.
6h05 sur Europe 1, la suite du journal de Romain Nequet. Et c'est peut-être vos derniers jours de vacances. En tout cas, il va y avoir du monde aujourd'hui sur les routes. La journée est classée orange dans le sens des retours.
Oui, l'heure du retour à la maison, car la rentrée scolaire, c'est jeudi prochain. Hier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a rappelé les règles. Pas de passe sanitaire, des cours en présentiel pour tous les niveaux, avec masque obligatoire en intérieur.
Un protocole de niveau 2 sur 4, déjà appliqué dans les écoles de l'île de la Réunion, où les élèves sont déjà de retour depuis le 16 août.
Alors, quel bilan après 2 semaines en classe? Réponse avec Guillaume Haribaud, secrétaire départemental de la FSU Réunion.
Oui, il est facile à mettre en place puisque concrètement, il n'y a pas grand-chose. On a juste à porter le masque, qu'on soit en intérieur ou en extérieur, ce qui est d'ailleurs du niveau 3 du protocole, mais pour les masques, on est au-delà du niveau 2. Et voilà, à part les protocoles de désinfection, de non-brassage des élèves, il n'y a rien d'exceptionnel.
Les élèves ont fait leur rentrée il y a une dizaine de jours, c'était le 16 août. Est-ce que vous avez des premiers résultats sur la circulation du virus?
Pour le moment, ça s'est plutôt bien passé dans le sens où voilà, on ne s'attendait pas non plus à avoir des catastrophes, mais ce qui nous inquiétait est en train de se passer. Avec le variant Delta, on voit les études passer montrant qu'il contamine beaucoup plus les enfants et les adolescents. On a déjà des fermetures de classes. On attend juste d'avoir des chiffres concrets sur le nombre de classes fermées, le nombre de cas chez les élèves et chez les enseignants. On avait peur d'une circulation plus importante du virus, du fait surtout du variant Delta, et c'est ce qu'on constate.
Le secrétaire départemental de la FSU Réunion, joint par Nicolas Feldman pour Europe 1.
Et ces craintes, on l'entendait à l'instant, qui sont confirmées par les projections de l'Institut Pasteur, qui estime qu'en septembre, la moitié des nouvelles contaminations concernera les enfants et les adolescents. Pour l'instant, selon le ministre de l'Éducation nationale, 57% des 12-17 ans ont reçu leur dose de vaccin.
La politique à présent et cet embouteillage à droite.
L'ancien ministre et négociateur du Brexit, Michel Barnier, a annoncé hier sa candidature à la primaire. C'est le 4e à entrer dans la course après Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Éric Ciotti.
Laurent Wauquiez, en revanche, renonce pour ne pas ajouter, dit-il, de la division à la division. L'ancien patron des Républicains l'a annoncé hier sur Twitter. Des incertitudes toujours autour de la candidature du sénateur Bruno Retailleau. Dans l'actualité judiciaire, le footballeur et champion du monde, Benjamin Mendy, se réveille ce matin en prison.
Le joueur de Manchester City a été placé en détention provisoire hier après l'ouverture d'une enquête pour viol et agression sexuelle. Il doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal en Angleterre. Les précisions de notre correspondante à Londres, Laure Van Rynbeek.
Ce sont des accusations graves révélées par la police de Cheshire, un comté du nord-ouest de l'Angleterre, émanant de 3 plaignantes âgées de plus de 16 ans pour des faits récents qui auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021. Manchester City a confirmé que leur latéral gauche, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, a été suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Le club a précisé qu'il ne fera pas de commentaires tant que la procédure ne sera pas terminée. La police, de son côté, rappelle que Benjamin Mendy a droit un procès équitable et demande à ce qu'aucun commentaire ne soit partagé sur Internet. Le joueur a déjà eu affaire à la police anglaise en novembre 2020 pour avoir conduit sa Lamborghini sans permis ni assurance. Le footballeur joue pour les Citizens depuis 2017 après avoir été transféré de Monaco pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros, ce qui en a fait à l'époque le défenseur le plus cher de l'histoire. Avec Manchester City, il a gagné la Premier League 3 fois et son contrat le lie à l'équipe jusqu'en 2022. Placé en détention provisoire, Benjamin Mendy va donc comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Chester. Londres, Laure Van Ruynbeck, Europe 1.
On avait l'habitude de le voir derrière une caméra à 58 ans, reconversion professionnelle pour Quentin Tarantino.
Et non Tarantino, comme j'ai dit dans les titres, le réalisateur de Pulp Fiction ou de Django Unchained change de voix, il s'apprête à sortir son premier roman.
Il était une fois à Hollywood, c'est le titre du livre inspiré de son dernier film, un indispensable de la rentrée littéraire pour Sophie Declauzet, directrice de la maison d'édition Fayard.
Même si on n'a pas vu son dernier film, je pense qu'on peut être conquis par ce roman qui est à la fois extrêmement drôle, qui vous plonge dans le Los Angeles de 69, un moment où l'ancien monde du cinéma est en train de disparaître, la contre-culture est à son top. On sent qu'il a un goût vraiment extrêmement fort pour les dialogues, qu'il entend tous ses personnages, et là il n'est pas limité par le temps, par les contraintes du cinéma. Donc du coup, oui, il y a une compétition de punchline, de dialogue et de tirade extrêmement réjouissante. Et chacun de ces personnages a sa voix et a tout l'espace pour l'exprimer. Donc oui, tout ce qu'on aime dans le cinéma de Tarantino, on le retrouve dans son livre.
Sophie Declauzet, directrice de la maison d'édition Fayard, c'est la maison d'édition du livre, joint par Damien Mestre pour Europe 1.
Merci beaucoup Romain Oquet, c'était le journal de 6h.
Et on passe au sport.
Société Générale, partenaire officiel de la Fédération Française Handisport, vous présente votre programme.
Et oui, le journal des sports, c'est avec vous, Martin Lange, et on commence avec Kylian Mbappé qui se rapproche du Real Madrid.
Oui, les Madriliens sont revenus à la charge hier à une deuxième offre de 180 millions d'euros que le PSG n'a pas refusé. Les Parisiens ont accepté d'ouvrir les négociations, selon le journal L'Équipe. Rappelons qu'il ne reste qu'un an de contrat au prodige français et qu'il sera libre de s'engager gratuitement où il le souhaite le 1er janvier prochain. Transfert toujours, Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'or, se rapproche, lui, de Manchester City. Son agent, Jorge Mendes, négocierait les derniers taille de son départ de la Juventus de Turin.
Ronaldo qui pourrait retrouver son meilleur ennemi, Lionel Messi, en Ligue des Champions.
Oui, car le PSG figure dans le même groupe que Manchester City. On rappelle que le club mancunien a été le bourreau des Parisiens l'année dernière en demi-finale de la compétition. Paris qui n'a pas été verni au tirage, puisqu'il retrouvera également le Red Bull Leipzig et le club de Bruges. Pour l'autre club français qualifié, le champion de France Lille, ça paraît un peu plus facile sur le papier avec le FC Séville, Salzbourg et les Allemands de Wolfsburg.
Football toujours, et Didier Deschamps a dévoilé hier la première liste des Bleus depuis le fiasco de l'Euro.
Oui, avec un grand absent, Olivier Giroud, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. L'attaquant a pourtant retrouvé une place de titulaire en club cet été à l'AC Milan. Pas suffisant pour le sélectionneur, écoutez.
C'est simplement un choix sportif du moment par rapport évidemment à une liste de 23 aussi avec de la concurrence et le retour d'Anthony Martial. Après à Olivier de continuer à être performant et il reste toujours disponible pour l'équipe de France.
Les Bleus qui accueillent par ailleurs 4 petits nouveaux pour combler les blessures de plusieurs cadres. L'ailier du Bayer Leverkusen Moussa Diaby, Théo Hernandez, le frère du champion du monde Lucas, le milieu monégasque Aurélien Tchouaméni et le Romain Jordan Veretout. Premier match des Bleus mercredi prochain contre la Bosnie.
Enfin, 3 infos en bref, Martin.
Oui, aux Jeux Paralympiques de Tokyo, une nouvelle médaille assurée pour l'équipe de France. Dorian Foulon disputera la finale de la poursuite en cyclisme sur piste. Ça sera donc l'or ou l'argent, un peu avant 9h ce matin. Déjà la 5e médaille pour les Bleus. En athlétisme, on attendait la championne olympique Hélène Thompson hier au meeting de Lausanne pour un possible record du monde du 100 mètres. C'est finalement sa compatriote, la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Pryce, qui l'emporte en 10 secondes et 60 centièmes. Troisième meilleure performance de l'histoire tout de même. Enfin, on a commencé avec des transferts. Eh bien, on va finir avec, en rugby cette fois, la star sud-africaine de Toulouse, Chelsea Colby, devrait rapidement prendre la direction de Toulon.
Merci beaucoup, Martin Lange. C'était votre journal des sports.
À demain.
Avec Société Générale, partenaire officiel de la Fédération Française Handisport depuis 2003. Vivez la passion du handisport sur notre page Facebook, Tous Handisport.
6h13 sur Europe 1, restez avec nous. Surtout si vous envisagez d'acheter un appartement ou une maison, les banques n'ont jamais autant accordé de prêts immobiliers depuis 4 ans. C'est l'euphorie, oui. Mais jusqu'à quand? Eh bien, on en parle dans une minute avec mon invité, spécialiste du courtage immobilier. A tout de suite sur Europe 1.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h14, votre matinale se poursuit avec l'interview Actu et ce constat. C'est l'euphorie sur le crédit immobilier. Les banques n'ont jamais autant prêté aux particuliers depuis 2017 et ce, malgré la crise sanitaire. Alors comment l'expliquer? S'oriente-t-on vers une nouvelle bulle de l'immobilier? Pour en parler, Julien, vous recevez Sandrine Alonier, directrice des études du courtier Vous Financez.
Bonjour Sandrine Alonier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. 134 milliards d'euros, c'est le montant total de crédits immobiliers que les banques ont prêté aux particuliers au premier semestre, selon la Banque de France, du jamais vu depuis 4 ans. Vous qui êtes experte du courtage immobilier, cet emballement, vous le constatez au quotidien ?
Oui, oui, tout à fait. On a un marché ultra dynamique depuis le début de l'année 2021, qui se traduit évidemment par une envolée des demandes de prêts et cette production de crédit record. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment liée à des transactions immobilières. On a eu une baisse de la part des renégociations. Donc c'est vraiment le marché immobilier et la vigueur du marché qui tire la production de crédit vers le haut.
Comment expliquez-vous cette euphorie des banques qui accordent ces prêts ?
Alors il y a plusieurs sujets. Déjà, au début d'année, il y a eu un desserrement des conditions de crédit, puisqu'on a pu augmenter le taux d'endettement maximum, qui est passé de 33 à 35%. Donc ça a permis de resolvabiliser des primo-accédants, ça a permis à des investisseurs aussi d'emprunter. Premier sujet. Deuxième raison, c'est que les taux ont à nouveau baissé au mois de mars 2021, et depuis, ils n'ont fait que baisser pour atteindre un nouveau plus bas historique. Donc on a aussi ces taux. Aujourd'hui, on peut emprunter à moins de 1% sur toutes les durées, donc ça booste la demande. Et enfin, on a aussi les envies des Français qui ont évolué après le premier confinement. C'est maintenant que ces envies sont concrétisées, un an après le premier confinement, où les gens achètent soit une résidence secondaire, soit déménagent pour acheter plus grand, avoir un extérieur. Donc c'est tous ces phénomènes-là qui expliquent cette vigueur extrême du marché de l'immobilier.
Quel est le profil de ces acheteurs, Sandrine Alonier ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le marché immobilier est dynamique un peu sur tous les pans, enfin en tout cas à tous les niveaux d'acheteurs. On a les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois, je le disais, qui eux sont solvabilisés grâce à ces taux bas. Ils peuvent acheter une surface suffisante dans laquelle vivre parce qu'ils peuvent emprunter beaucoup, même si évidemment il faut quand même de l'apport personnel et un CDI. Mais donc en tout cas, eux sont là, ils sont sur le marché. On a tous ceux qui vendent cher pour acheter plus grand, cher également, mais en tout cas, ils ont cette capacité de racheter plus grand parce qu'ils veulent un extérieur ou ils s'éloignent un petit peu. Donc c'est là qu'on a l'essor de la seconde couronne ou des banlieues des villes, des périphéries de villes. Et on a également les investisseurs, puisque l'immobilier est une valeur refuge cette année encore plus que jamais. Et du coup, c'est maintenant 30% des acheteurs qui sont des investisseurs. Donc ils achètent pour louer et eux aussi sont de retour sur le marché. Donc c'est aussi ce qui explique ces chiffres vraiment importants, c'est que on a vraiment tous les styles d'acheteurs qui reviennent sur le marché.
Et dans l'eau, il y a des profils, des situations financières que n'auraient jamais acceptées certaines banques il y a encore quelques mois.
Oui, c'est vrai qu'aussi ce qui explique ce redémarrage du marché, même si ça fait plusieurs années qu'on a un marché vigoureux, c'est la reprise économique ou en tout cas la reprise de la visibilité sur la reprise de l'économie. C'est-à-dire qu'on a eu la réouverture des restaurants, la reprise du trafic aérien, même si elle est progressive. Donc aujourd'hui, on a des gens qui peuvent emprunter alors que c'était impossible en 2020. Il s'agit de tous ceux qui travaillaient dans l'aéronautique, dans l'événementiel, dans l'hôtellerie-restauration. On avait même du mal l'année dernière à financer des artisans commerçants, des chefs d'entreprise, puisqu'on n'avait pas de visibilité sur la pérennité de leur entreprise. Aujourd'hui, même si les banques restent très prudentes, hein, attention, elles ont leur propre garde-fou. Il faut de l'apport personnel, il faut 3 ans de bilan, sinon il faut un CDI. Donc elles ont leur propre garde-fou. Mais aujourd'hui, on a quand même davantage de profils qui peuvent emprunter. Et enfin, le dernier exemple, c'est tous ceux qui avaient connu du chômage partiel pendant plusieurs mois, eux avaient du mal à emprunter. Aujourd'hui, on a quand même une reprise de l'activité et du travail dans beaucoup d'entreprises. Donc il n'y a plus ce sujet du chômage partiel.
Et les craintes d'une inflation galopante, ça n'effraie pas les banques? Parce que tout augmente en ce moment, je pense aux matières premières, tout sauf les taux immobiliers.
Oui, alors ce qui explique, et vous avez raison, c'est un paradoxe. Normalement, quand on a une inflation qui reprend, même une croissance qui reprend, on a forcément une remontée des taux et des taux de crédit, des taux des marchés financiers. Mais là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a un excès de liquidité sur le marché. Beaucoup de gens ont beaucoup épargné pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire. sanitaire et cet excès de liquidité, les banques doivent le placer. Et en fait, soit elles le placent auprès de la Banque Centrale Européenne, mais ça leur coûte de l'argent puisqu'on est à taux négatif, soit sinon pour elles, finalement, le meilleur placement qui offre le meilleur couple rendement-risque, eh ben, ça reste le crédit immobilier. Donc même si les taux sont très bas et que ça leur rapporte peu, eh bien, c'est finalement assez peu risqué pour elles de prêter aux particuliers et c'est pour ça qu'elles prêtent massivement et à des taux très bas parce qu'elles ont toutes cette même stratégie, ce qui tire les taux vers le bas. C'est tout simplement la concurrence interbancaire qui maintient les taux bas et finalement on a des taux qui ne sont plus indexés sur l'inflation, en tout cas pour l'instant.
On a une situation qui est extrêmement favorable à une remontée des prix de l'immobilier cette fois.
Oui, alors du coup, on peut pas parler vraiment de situation favorable. C'est vrai que du point de vue de des prix de l'immobilier...
Pour les vendeurs, j'entends.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ce marché extrêmement dynamique et cette demande très forte, notamment alimentée par les taux bas et par le côté valeur refuge de l'immobilier, a évidemment pour effet de faire augmenter les prix. Avant, c'était le cas essentiellement dans les grandes villes. La grande nouveauté cette année, c'est que on a un attrait des villes périurbaines, enfin des régions périurbaines ou des villes de seconde importance, des villes moyennes. Et là, on a des prix qui décollent de parfois plus de 10% sur un an. Et ça, c'est vrai que ça peut devenir problématique à court terme puisque du coup certaines personnes ne pourront pas se loger et ça risque du coup de poser problème. Et attention, et ça les banques sont très prudentes, attention à ne pas acheter des biens surévalués. On a l'attrait des maisons, tout le monde en extérieur, etc. Mais aller acheter une maison un peu éloignée de la gare, un peu éloignée du centre-ville, il peut y avoir un risque dans quelques années de baisse de prix. Et si la personne a emprunté sans apport, en cas de revente contrainte ou parce qu'elle tout simplement elle veut revenir dans une grande ville, eh bien, il pourrait y avoir une baisse de prix. Elle pourrait ne plus rembourser la banque. Donc ça, les banques sont très attentives à ça. Elles regardent si les emprunteurs achètent au juste prix. C'est aussi une façon de se prémunir du risque. Donc oui, attention à la bulle immobilière qui pourrait être alimentée. Alors non plus dans des grandes villes comme Paris, Bordeaux, etc. On a un peu des hausses qui sont derrière nous, mais c'est un peu la revanche des villes moyennes de ce point de vue-là.
Merci infiniment Sandrine Allonier d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur cette euphorie des crédits immobiliers. Je rappelle que vous êtes directrice des études du courtier Vous Financez. Très bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h21 sur Europe 1, l'actualité en temps réel avec le journal permanent Élise Dangean.
Des dizaines de morts, dont 13 soldats américains, au moins une cinquantaine de blessés. C'est le bilan très lourd du double attentat suicide à l'aéroport de Kaboul revendiqué par le groupe État islamique. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis 2011 contre l'armée américaine en Afghanistan. Le doute sur la vaccination tue. Phrase choc d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, a durci le ton hier sur le retard pris notamment aux Antilles. Il a par ailleurs annoncé que l'objectif du gouvernement des 50 millions de primo-vaccinés serait atteint première semaine de septembre. Il faut faire du porte-à-porte, disait ce matin sur Europe 1 Olivier Guérin, président de la Société française de gériatrie. Amener le vaccin aux 600 000 personnes de plus de 80 ans qui ne sont toujours pas vaccinées. Enfin, une nouvelle approche qui utilise des remèdes déjà existants contre le paludisme a montré pouvoir réduire de 70% le nombre de cas graves de cette maladie infectieuse chez les enfants. Conclusion d'une nouvelle étude menée en Afrique subsaharienne.
Merci Élise Dangean. Prochain journal complet à 6h30.
Et à 6h23 sur Europe 1, on termine Omblin avec votre partition qui nous emmène ce matin dans l'Angleterre du milieu des années 90. À l'époque, la révolte gronde contre le grunge exporté d'Amérique, notamment Nirvana dont on parlait il y a quelques minutes dans la prescription culture. Alors pour résister en quelque sorte au riff énervé de Kurt Cobain, une poignée de groupes va remettre la pop anglaise sur le devant de la scène. Et parmi eux, Omblin, Supergrass.
Ils sont jeunes, des dents impeccables, entourés d'amis, un vent de fraîcheur souffle sur la musique britannique et qui entend bien voir à nouveau flotter l'Union Jack au-dessus des charts mondiaux. Et pourtant, le trio Supergrass va inexorablement rester l'un des groupes les plus sous-estimés de ce mouvement qu'on appelle Britpop.
Il faut dire que dès le départ, Supergrass ne fait rien comme les autres.
Effectivement, Julien, il mise sur l'humour et l'autodérision plutôt que sur l'impertinence, à la différence de ses célèbres compatriotes Oasis et Blur. Résultat, Supergrass n'est pas vraiment pris au sérieux, un peu comme Madness, figurez-vous, 10 ans plus tôt. Alors, Un mal pour un bien, diront certains, avec à l'arrivée 15 ans d'existence, des disques réussis et des salles de concert remplies.
L'histoire de Supergrass débute à Oxford, à 100 km au nord-ouest de Londres.
Le chanteur et guitariste Gaz Combs, le bassiste Mick Quinn se rencontrent alors qu'ils travaillent tous les deux dans le même restaurant. Gaz invite Mick à venir jouer avec lui et son copain batteur Danny Goffey. Ils décident de s'appeler Théodore Supergrass. Vous avez compris que les trois joyeux compagnons ne manquent pas de malice. Théodore Supergrass est censé être un personnage qui se chargera de répondre aux interviews. Alors le prénom va vite être abandonné.
Et le premier album sort en 1995, au moment où la rivalité entre Blur et Oasis atteint son apogée.
Oui, mais Supergrass se place plutôt à l'extérieur du ring, hein, sans jamais chercher à rivaliser avec les deux mastodontes. Avec ce disque baptisé I Shoot Coco, que les musiciens produisent entièrement, on découvre donc des garçons gentiment délurés, l'air moqueur. Le chanteur Gaz Combs arbore d'impressionnantes rouflaquettes.
I Shoot Coco est un succès avec plus de 500 000 exemplaires écoulés au Royaume-Uni.
Et plus d'un million dans le monde. Deux ans plus tard, Supergrass est de retour avec le disque In It For The Money. Comprenez, on est là pour l'argent. On commence à être habitué aux blagues potaches du groupe. Mais ne vous méprenez pas, derrière les bouilles rieuses de Gaz Combs, Mick Quinn et Danny Goffey se cachent de formidables compositeurs et paroliers pleins de fraîcheur. Sun Hits the Sky, cet extrait du deuxième album de Supergrass paru en avril 1997, baptisé In It For The Money et qui a droit à une seconde jeunesse, une réédition avec de très nombreux bonus et disponible dès aujourd'hui.
C'était la partition british ce matin d'Omblin Roche. Merci Omblin.
Europe Matin.
Il est 6h27 et on se dit à lundi, Julien.
À lundi, ma chère Omblin. Merci à vous de nous avoir écoutés à partir de 5h du matin. On se retrouve lundi donc. Et vous restez en attendant sur Europe 1. Votre matinale se poursuit avec vous, Dimitri Pavlenko. Bonjour, Dimitri.
Bonjour, Julien. Bonjour, Omblin.
Bonjour.
Vous avez décidé d'être dans le rock nerveux, hein, j'ai remarqué.
On termine bien vendredi.
Vous savez, il y a tout un répertoire musical plus cool.
On a une belle année de partitions qui s'annonce.
Bon, allez, je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Bien mérité.